Docteur Philippe Duneton, bonjour.
Bonjour.
Quand on est malade du sida, il faut pouvoir acheter des médicaments antirétroviraux. Or, ça coûte très cher. Que fait United pour permettre aux malades de se soigner ?
Alors, on fait plusieurs choses. D'une part, dans la plupart des cas, les patients n'achètent pas leurs médicaments eux-mêmes. C'est financé par la sécurité sociale ou les États. En revanche, on fait deux choses. D'abord, on simplifie les traitements. Quand on a commencé il y a 15 ans l'accès aux médicaments antiviraux, il fallait prendre une douzaine de gélules par jour, ce qui est compliqué. Aujourd'hui, on peut se traiter avec un comprimé par jour. Et surtout, évidemment, le coût pour les États est très différent parce que aujourd'hui en Afrique, ça coûte 60 euros par personne et par an. À comparer avec les prix qui existent pour les produits équivalents en France et en Europe, c'est environ 11 000 euros par personne et par an.
Et comment avez-vous réussi à faire casser les prix en Afrique ?
Alors, on a négocié avec l'industrie qui a découvert les médicaments et on leur a fait remarquer que, évidemment, les prix qu'ils avaient au nord ne pouvaient pas permettre d'atteindre les personnes au sud. Et donc, on a négocié avec eux pour avoir d'une part des prix et aussi qu'ils puissent céder la licence volontaire à une organisation qu'on a créée qui s'appelle le Medicine Patent Pool et qui va gérer les licences volontaires et créer un marché de génériques avec des génériqueurs qui sont en Inde ou ailleurs dans le monde et qui vont pouvoir fabriquer à coût fixe et à coût beaucoup plus abordable les produits qui sont certifiés par la qualité de l'OMS.
Et comment avez-vous réussi à convaincre les laboratoires pharmaceutiques à céder les licences, comme vous dites, c'est-à-dire à abandonner l'exclusivité de leurs découvertes ?
En leur faisant remarquer que l'innovation, les découvertes qu'ils font, elles doivent être accessibles au plus grand nombre et qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les circuits de distribution, c'est pas les marchés où ils opèrent, que pour réaliser ça, un objectif de santé publique, ils devaient être généreux avec des licences volontaires, avec une petite royalty d'ailleurs, donc ils touchent un petit peu malgré tout d'argent, et c'est normal de reconnaître l'innovation, mais en contrepartie, ça nous permet d'aider les gens qui, sans ce qu'on fait, ne pourraient pas avoir accès au traitement, et dans le cas du VIH, ils mourraient.
Et quels sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont été les plus compréhensifs et donc les plus généreux ?
Je pense que ce n'est pas uniquement la générosité, je pense que c'est une vision de pourquoi on fait ce métier-là, quand on fait de la santé publique, quand on fait du développement de médicaments. Si ça reste dans un placard et que ce ne soit pas utilisé, je pense que l'objectif n'y est pas. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont fait cet effort. Ça peut être Sanofi sur la tuberculose. Grâce aux efforts de Sanofi, on a pu rendre actif et possible le traitement préventif de la tuberculose chez les gens qui vivent avec le VIH. Donc ça, c'est très important. Ils ont accepté aussi qu'on puisse développer un marché générique parce qu'ils ne pouvaient pas produire tous les volumes. Mais c'est vrai pour des compagnies comme Gilead en matière de VIH, c'est aussi le cas pour Vive. Je dirais qu'il y a beaucoup de laboratoires et j'espère que d'autres pourront rejoindre cet effort collectif qui est un effort de solidarité et de justice en matière d'accès équitable pour les produits qui sauvent la vie des hommes, des femmes et des enfants.
Et grâce à cet accès pas cher aux antirétroviraux, combien de personnes ont pu être sauvées depuis 15 ans ?
Alors, c'est l'anniversaire de United, mais c'est un effort collectif qui est un effort que l'on fait directement pour négocier des prix pour les médicaments, les tests, les outils de prévention de la malaria, pour le dépistage et le traitement du cancer du col chez les femmes. On investit beaucoup dans la santé des femmes. C'est aussi le Fonds mondial, c'est aussi d'autres acteurs et les pays eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, la décision appartient aux pays, parce que soit ils mettent des ressources, soit ils en font des priorités. Donc, on estime que depuis 20 ans, c'est environ 45 millions de personnes qui ont été sauvées au cours du temps. C'est énorme, mais ça reste un combat, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est éliminer ces grandes pandémies, c'est-à-dire contre le VIH, contre la tuberculose, contre le paludisme, à l'échelle 2030. Malheureusement, la pandémie de Covid ralentit ces efforts parce que ça désorganise les systèmes de soins au nord et au sud. Et donc, il faut plus de financement, plus d'innovation et plus d'efforts collectifs pour aider les patients qui ont besoin.
L'un de vos grands combats, c'est la lutte contre le paludisme, notamment chez les enfants. Qu'est-ce que vous faites pour réduire les infections au paludisme en Afrique ?
Alors, c'est une des choses dont on est le plus fier, notamment dans les pays du Sahel. Parce qu'au Sahel, la transmission du paludisme, notamment chez les enfants, ça se passe dans la saison des pluies. Et donc, des chercheurs du Sénégal, du Mali, ont développé, il y a maintenant plusieurs années, un essai qui visait à voir comment on peut utiliser les médicaments pour réduire le nombre de contaminations des enfants au travers du paludisme, en donnant un comprimé par semaine pendant les mois de la saison des pluies. Ils sont aperçus que 80% des enfants pouvaient être protégés contre le paludisme. Nous, ce qu'on a fait, à partir de cette recommandation, qui était une recommandation de l'OMS, qui n'était pas mise en œuvre, on a travaillé à faire produire les médicaments, développer des formulations pédiatriques, et donc, en 2008, 2008, il y avait très peu d'enfants qui avaient accès à ces traitements. Aujourd'hui, il y a 33 millions d'enfants qui, chaque année, ont accès à ce traitement. Et on a pu démontrer que 80% des cas étaient réduits. C'est-à-dire qu'on avait une réduction du nombre de cas, une réduction de la mortalité qui est extrêmement importante, qui est vue par les mamans et les enfants. Et donc, ce sont les mamans qui demandent aux programmes nationaux, avec le soutien aujourd'hui du Fonds mondial, de la Banque mondiale. Et donc, c'est un effort absolument clé, mais qui démontre combien des solutions pratiques peuvent être développées avec nos collègues aussi en Afrique et qu'on met en œuvre à grande échelle avec l'effort et le support des pays.
Depuis l'an 2000, on annonce régulièrement l'arrivée d'un vaccin contre le paludisme. Est-ce qu'on va y arriver ?
Écoutez, oui. Alors, je l'espère. Aujourd'hui, Unitaid a contribué à la mise en œuvre dans les pays d'un vaccin de GSK qu'on appelle le RTSS. On l'a fait avec l'OMS, avec le Fonds mondial et Gavi. Les résultats obtenus montrent une réduction de la mortalité, notamment chez les enfants, avec une bonne tolérance et sécurité. Mais ça reste un vaccin un peu complexe, donc il reste à déterminer les conditions d'utilisation, parce que dans la lutte contre le paludisme, il n'y a jamais un seul outil qui va permettre de régler le problème. On sait que c'est une combinaison d'interventions. C'est évidemment, on espère, le vaccin, mais aussi les moustiquaires imprégnés. Donc ce vaccin, aujourd'hui, sera important dans la réponse. On espère qu'il y a d'autres vaccins qui vont venir. Et donc, on espère que les développements en cours, il y a 2-3 vaccins qui sont en cours de développement contre le paludisme, eh bien, que ces vaccins seront encore plus efficaces que celui qu'on pourra utiliser dans les prochains mois.
Contre le Covid-19, vous participez au financement de nouveaux traitements prometteurs. Quels sont-ils ?
Alors, le premier traitement, c'est l'accès à l'oxygène. Parce qu'on a montré que chez les gens qui avaient des formes sévères, l'accès à l'oxygène était déterminant.
Or, il y a pas mal d'hôpitaux qui manquent d'oxygène.
Absolument. Donc, ce qu'on a fait avec l'OMS, avec des partenaires dans les pays eux-mêmes, c'est d'évaluer les besoins. Depuis l'an dernier, on a pu aider 120 pays à formuler des besoins nets en oxygène. On a pu aussi travailler sur l'accès à l'oxygène liquide, qui existait assez peu en Afrique. En plus de ça, il y a aussi maintenant de nouveaux traitements qui sont efficaces, qui permettent de réduire le besoin d'hospitalisation, donc d'oxygène, mais aussi la mortalité, par 85% chez les personnes à risque. C'est un produit de Pfizer qui s'appelle le Paxlovid, qui aujourd'hui, on est en train de négocier avec Pfizer les conditions de prix et d'accès de ce médicament. On espère conclure dans les prochains jours. Et on travaille déjà à ce que ces produits soient génériqués, et donc avec des meilleurs prix, de plus grands volumes dans les 6 mois qui viennent. Donc, une des choses essentielles, c'est qu'il faut qu'on puisse garantir l'accès à des tests rapides aux personnes qui sont à risque. Les personnes doivent prendre ce médicament dans les 48 heures, en tout cas dans les 5 jours qui suivent leur contamination. Donc, l'accès aux tests est un élément déterminant du traitement et de son efficacité.
À l'origine, docteur Duneton, il y a 15 ans, l'initiative Unitaid a été lancée par 3 chefs d'État, le français Jacques Chirac, le brésilien Lula da Silva et le chilien Ricardo Lagos. Actuellement, il n'y a que 8 pays contributeurs à cette initiative, 8 sur 193. Est-ce que ce n'est pas un ratio très faible et donc encore fragile pour l'avenir ?
D'abord, il faut saluer la vision des chefs d'État, du président Chirac, du président Lagos, du président Lula, qui ont vu l'intérêt. Mais vous avez tout à fait raison, je pense que c'est une vision. Cette vision, elle doit être mieux partagée. Ce que je constate, c'est qu'avec la réponse à la pandémie Covid-19, on a reçu le soutien de pays qui, jusqu'à maintenant, ne nous soutenaient pas, c'est-à-dire c'est le Canada, c'est l'Allemagne. On a reçu plus de soutien de la France et de la Norvège qui nous connaissaient déjà, bien évidemment, et je les en remercie, mais aussi de l'Italie, mais aussi du Portugal. Donc, je pense qu'il y a une meilleure visibilité. Je pense que tous les chefs d'État au monde ont compris que les questions d'accès équitable étaient centrales dans une vision globale de santé publique, en tout cas dans la lutte contre les pandémies, ce qu'on avait peut-être un peu oublié ces dernières années. Et quand on a commencé, il fallait 10-12 ans pour qu'un médicament utilisé au Nord arrive au Sud. Alors, ça prend encore du temps, mais on y arrive dans les moins de 3 ans et dans le cas du traitement anti-Covid, dans les moins d'un an. Ça reste long, ça reste un enjeu et je pense que c'est cette vision collective qu'il nous faut mieux partager pour qu'effectivement on bénéficie d'un soutien plus large avec beaucoup plus de pays donateurs qui nous aident dans cette mission pour le service des personnes au Sud.
Philippe Duneton, merci.